Bonjour à tous. Nous sommes en direct avec le docteur Daniel Simeka, médecin généraliste. Bonjour docteur.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons vous parler des petits bobos de l'été. Notre expert répondra à toutes les questions que vous vous posez sur cette thématique.
Écoutez, bonjour à tous. Merci d'être sur ce webinaire post-déconfinement. C'est toujours un plaisir, en tout cas, de se retrouver comme cela. Donc, je vous salue bien. Moi, je suis médecin généraliste, expert dans un certain nombre de disciplines dites non conventionnelles quand on les aime pas, ou dites alternatives et complémentaires quand on les aime. C'est la sémantique change selon qu'on est du côté des pour ou du côté des contre. Ça veut dire que moi j'utilise plein d'outils dans ma pratique: phytothérapie, oligothérapie, homéopathie. Je suis également sophrologue, puisque mon credo en médecine, c'est la médecine intégrative. Je considère qu'il n'y a pas de camp, il y a un seul camp, c'est l'intérêt du patient. Et ces deux principes, le principe de parcimonie, d'abord, utiliser la thérapeutique la plus adaptée et la moins invasive, et un principe de globalité, c'est-à-dire qu'on ne soigne pas juste des symptômes, mais on soigne les gens de préférence en fonction de leur terrain et donc en tenant compte de la totalité de leur être.
Alors du coup, voilà, quels sont ce qu'on appelle les petits bobos de l'été ? Bon, il y en a plusieurs. Est-ce que vous pouvez peut-être faire le tour pour commencer ? Ça donnera sans doute des idées ensuite à nos lecteurs pour poser leurs questions.
Ben, tout dépend d'abord ce qu'on fait l'été, bien évidemment. Hein. Il semblerait quand même que cet été, on va pouvoir passer des vacances dans notre hexagone, dans notre joli pays. C'est sûrement ce que vont faire la majorité des gens. Mais il est quand même possible, probable, qu'on puisse un peu se déplacer à l'étranger de façon plus classique, donc prendre l'avion. Alors moi, j'ai l'habitude de commencer mon propos, quand je parle des difficultés liées à l'été, bah déjà par le voyage. Hein. Le mal des transports, c'est un problème, surtout par exemple pour les enfants. Hein. Avoir des enfants mis dans la voiture à longueur de temps, c'est quand même pas terrible. Il y a la peur de l'avion. Bon, même si on sait que c'est sûrement pas le moyen le plus sûr de perdre la vie, hein. C'est beaucoup plus dangereux sur une autoroute, mais bon, c'est comme ça. Sur autoroute, on n'a pas peur, et dans l'avion, on a peur. C'est la préparation éventuellement. Il y a des vaccins à faire selon le pays où on se rend. Et puis une fois arrivé là-bas, tous les problèmes déjà de... Alors, pas tellement quand on est en France, normalement, mais à l'étranger, de tourista, des diarrhées liées au changement de nourriture, à certains microbes, à certains virus. Il y a toute la pathologie liée au soleil, bien évidemment, parce que le soleil, c'est un ami à fréquenter avec modération. On en a besoin pour la vitamine D, mais on sait bien les inconvénients. C'est les piqûres d'insectes, et toutes les bestioles en tout genre, sans parler évidemment des... sans aller jusqu'aux serpents, aux araignées, mais principalement les piqûres d'insectes, voilà. Et moi, souvent, je termine d'ailleurs, je mets dans les pathologies de l'été le blues de la rentrée, hein, parce que souvent, les vacances, elles sont sympas, elles sont agréables, c'est une espèce de rupture, et c'est presque pas une rupture, c'est-à-dire c'est comme si, en vacances, on se lâchait un petit peu et on se reconnectait avec notre être profond. Hein, et souvent la réflexion qu'on a pu tous se faire à un moment donné, quand on a passé vraiment 15 jours, 3 semaines de bonnes vacances, c'est de se dire mais c'est ça la vraie vie, mais qu'est-ce que je vis d'habitude, mais c'est 11 mois que je viens de passer, mais c'est quoi, hein. Il y a une espèce de prise de conscience, sauf que ben voilà, on n'est pas dans un monde idéal, il faut travailler, il faut gagner sa vie, etc., etc. Et donc il y a une espèce de blues de rentrée, comme s'il y avait un jardin d'Éden un peu perdu, hein, on est chassé du paradis terrestre que sont les vacances. Donc je mets ça aussi, moi, dans la pathologie de l'été.
Alors nous avons Cathy qui est avec nous et qui demande si l'aquagym en mer est bénéfique pour la santé.
À l'aquagym, que ce soit en piscine ou en mer, bien évidemment, hein, parce que le fait d'être dans l'eau, on le sait, supprime un petit peu la pesanteur. C'est un petit peu la même chose qu'avec le cyclisme, hein, qu'avec le vélo, sauf que avec le vélo, c'est le fait d'avoir les fesses portées qui supprime une partie de la pesanteur et qui fait travailler les groupes musculaires de façon différente. Là, dans l'aquagym, vraiment, on est un petit peu porté. En même temps, il y a une résistance de l'eau qui fait qu'on se muscle davantage. Le fait que ça soit de l'eau de mer, bah, c'est quand même plus naturel, parce qu'on sait bien, bah, l'eau de piscine, ça veut pas dire que l'eau, c'est pas naturel, mais on est bien obligé de rajouter des choses dedans. Il y a une dimension cognitive, hein, quand on est dans la mer, on n'est pas enfermé. Donc, bien évidemment que c'est excellent pour la santé. Je vois pas trop, à part de pas prendre ses précautions et de risquer de se noyer ou autre, je vois pas très, très bien quels pourraient être les inconvénients.
Quel remède pour se protéger contre les piqûres de moustiques?
Les moustiques, ça pose vraiment un problème. Hein. C'est même maintenant un vrai problème de santé publique, qu'ils soient tigrés ou pas tigrés. Alors, comment on les reconnaître? Bon, il faut quand même bien regarder pour pouvoir faire la différence. Et puis, le tout, c'est de se protéger. Bien évidemment, il y a les moyens classiques, je ne vais pas insister, la moustiquaire, enfin, faire attention, surtout pour les enfants, de fermer les portes. Il y a une technique qui semble être toute bête, mais qui semble bien marcher quand on veut protéger surtout les enfants, c'est tout simplement le ventilateur. Parce que les moustiques, ils n'aiment pas trop les courants d'air, c'est un peu plus compliqué. Et donc, le ventilateur près du lit, c'est souvent un bon moyen. Alors, pour les adultes, il y a classiquement, on a décrit pendant longtemps, l'utilisation de la vitamine B1 qu'on trouve dans des tas de compléments alimentaires avec de la vitamine B. C'est un truc tout bête, c'est que quand on avale ce genre de médicaments, ça passe dans la sueur et ça donne une odeur franchement très désagréable. Alors, c'est désagréable pour les moustiques, mais c'est désagréable pour les nez humains aussi. Hein. Donc, souvent, on essaye, c'est pas forcément la solution la meilleure. Il y a les huiles essentielles qui peuvent donner un certain effet. L'huile essentielle de citron qu'on peut utiliser par voie orale et l'huile essentielle de l'aimant de grasse qu'on peut utiliser en voie. Alors, si c'est l'huile essentielle de citron, c'est une goutte, deux gouttes sur un petit morceau de sucre parce que ça a une action sur le foie un petit peu tonique. Hein. Faut pas forcer les doses par jour. Ça passe dans la sueur et ça peut repousser. Et puis, le lemongrass, l'huile essentielle de lemongrass qu'on peut utiliser diluée dans un petit peu d'huile d'avocat en application comme ça parce que on met 5-6 gouttes d'huile de lemongrass dans une ou deux cuillères à soupe d'huile végétale. Alors, l'huile d'avocat, ça, elle a ma préférence, mais l'huile d'olive, n'importe quelle huile végétale, fait très bien l'affaire. Une fois qu'on est piqué, si on est piqué, il y a un grand médicament qui marche très bien, c'est Apis, hein, qui est un médicament homéopathique qui est fabriqué à partir du venin d'abeille, enfin à partir même de l'abeille entière, et on peut utiliser en 15 CH. C'est un médicament qui marche très bien, mais qui marche pas longtemps. Donc, faut le prendre pratiquement toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure au début, puis après on espace et on arrête. Il y a un dernier médicament qui est l'EDUM palustré, L-E-D-U-M palustré, comme ça se prononce, qu'on peut prendre en 15 CH. Il semblerait qu'on est moins piqué quand on le prend une dose tous les 2-3 jours pendant la période où on est exposé.
Quel est votre avis sur les bracelets anti-moustiques?
Je n'ai pas le sentiment que ça soit d'une efficacité foudroyante, y compris les bracelets qui sont imprégnés avec des huiles essentielles. Je pense que ça n'a pas une grande efficacité et il est préférable quand même d'utiliser cette méthode avec les huiles essentielles, de tartiner un petit peu plus largement le corps.
Dans les bobos de l'été, vous parliez tout à l'heure de tout ce qui est lié au soleil. Qu'est-ce que vous préconisez en cas de coup de soleil?
Alors d'abord, moi, pour les gens qui sont très sensibles, je préconise un traitement préventif. Alors, on sait bien que, je parle pour les gens qui sont, ils savent qu'ils font des réactions énormes. Il y a trois lettres à retenir, c'est A, C et E. Hein, vitamine A à base de carotène, la vitamine C que tout le monde connaît, et la vitamine E souvent le sélénium associé, qui sont des éléments, des micronutritionnels qui vont aider. Alors, on fait une cure, il y a plein de spécialités, il faut demander conseil à son pharmacien, il y a plein de spécialités qui contiennent ces produits. 3 semaines avant, allez, on fait une petite cure avant de s'exposer au soleil. Il y a un médicament homéopathique qui est muriatique acidum, que je préconise en 30 CH, on prend une dose par semaine, le mois qui précède et pendant la période d'exposition. Après, une fois que l'érythème est là, le médicament principal qui correspond à ce coup de soleil ou à cet érythème, à cette lucite, c'est un médicament homéopathique qui est fabriqué à partir d'une plante qui est la belladone. Donc, c'est belladonna, hein, qu'on connaît souvent pour la fièvre chez des enfants, l'hiver, les rhinos et tout. Mais là, on va le prendre en 9 CH, par exemple, et on prendra 3 fois par jour pendant cette période de rougeur et de brûlure intense. Si c'est moins rouge et que c'est un peu plus rose et que c'est très amélioré par le froid, on revient au médicament précédent qui est Apis, qu'on prendra aussi en 9CH et 3 ou 4 ou 5 fois par jour selon l'évolution des symptômes. Mais c'est surtout la prévention. Alors évidemment, je ne le dis pas, mais parce que ça tombe sous le sens, c'est aussi de veiller aux écrans solaires, à pas s'exposer à outrance, à s'hydrater correctement, parce que la peau déshydratée, elle prend beaucoup plus facilement les réactions solaires. Voilà, c'est tout cela aussi.
Faut-il utiliser systématiquement des crèmes solaires indice 50 ?
Alors, les indices des crèmes solaires, on a le sentiment que chaque laboratoire a son échelle d'indice. Donc, moi, je crois qu'il faut surtout avoir confiance dans les marques un petit peu prestigieuses, un petit peu connues, plutôt que d'essayer d'économiser sur les crèmes solaires. En tout cas, il faut utiliser un indice maximal, sachant que, vous savez, c'est comme à un moment donné, on parlait d'écran total, c'est un vocable. Mm-hmm. Si on veut vraiment se protéger, utiliser la crème solaire idéale, c'est le béton, hein, on reste à l'intérieur. Et puis, comme ça, on n'a pas de souci, mais c'est un peu dommage. Donc, il faut utiliser les crèmes qui sont à indice maximal.
Très bien.
On n'a pas de problème avec la vitamine D. La vitamine D, on la synthétisera toujours suffisamment, à condition, alors j'en profite, hein, parce qu'on manque tous chroniquement de vitamine D. Pour la vitamine D, il faut du soleil, mais il faut aussi avoir une fonction hépatique qui marche, parce que la synthèse de la vitamine D, ça passe par le foie. Donc, si on passe son temps à boire de l'alcool l'été, bon, je dis pas qu'il faut pas, on peut se lâcher raisonnablement, mais il faut veiller à ce qu'on ne soit pas matraqué par l'alcool ou par les boissons sucrées, parce que sinon, c'est le foie qui, lui, va bloquer, même si on a du soleil. Je vois qu'il y a aussi une question par rapport à quelquun qui parle de bévitine. C'est ce que je disais par rapport à la vitamine B. Hein, c'est ça, c'est la vitamine B qui donne une odeur. Alors, c'est plus qu'une odeur de levure. Hein, c'est une odeur de levure, mais un peu passée quand même, la levure. Hein, c'est franchement, parce que la levure, quand c'est une odeur de croissance, c'est agréable. Là, franchement, ça sent mauvais. Donc, pour les moustiques, mais pour les autres aussi.
Sylvie demande si prendre un comprimé par jour pendant les mois d'été n'est pas préjudiciable, car c'est tout de même une vitamine synthétique.
Oui. Les vitamines naturelles sont toujours plus intéressantes. Alors, la vitamine B1 en vitamine naturelle, ça, j'ai un doute. Je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver ça facilement sur le marché. D'autres vitamines naturelles. Les vitamines naturelles sont bien sûr toujours préférables. Pourquoi ? C'est très simple. Quand on fabrique une vitamine chimiquement, on fabrique les vitamines, c'est des molécules qui sont orientées. C'est un peu comme ma main droite et ma main gauche. Donc, on sait bien que les vitamines qui appartiennent au règne du vivant, elles sont toutes orientées plutôt du côté gauche, hein, puisque notre ADN lui-même tourne à gauche. Et quand vous fabriquez chimiquement, vous fabriquez les deux formes. Or, ça, ces deux molécules, donc je prends cet exemple avec mes doigts, hein, mais vous comprenez bien, une molécule, elle a une conformation spatiale et son image dans le miroir, elle n'aura pas forcément la même action chimique. Alors souvent, c'est une absence d'action chimique, donc on prend un comprimé, on n'a que la moitié qui marche. Il peut y avoir un petit inconvénient avec l'autre moitié, donc c'est toujours mieux les vitamines naturelles.
Alors parlant de mer, Claude demande quelle est la conduite à tenir pour les brûlures de méduses.
Alors, les brûlures de méduses, je suis pas tout à fait dans mon domaine d'expertise, parce que ce sont davantage les maîtres nageurs connaissent bien ça, et les médecins qui sont des médecins installés près du bord de mer qui connaissent ce genre de choses. La piqûre de méduse est quand même une urgence, hein. Donc, quand on s'est fait piquer par une méduse, normalement, c'est le 15, hein, directement. Alors, un autre thème qu'on n'a pas abordé, c'est celui des vaccins. Parce que souvent, c'est une période où on doit, pour partir à l'étranger, faire un certain nombre de vaccins, etc. Moi, c'est très clair, hein, je ne fais pas partie des anti-vaccins. Hein, je pense que le vaccin contre la fièvre jaune, quand il est nécessaire, mais aussi la prévention dans les zones de paludisme, hein, où on doit prendre la fameuse chloroquine, pas l'hydroxychloroquine, c'est la chloroquine, ou d'autres antipaludéens. Donc, dans ces cas-là, quand on doit faire des vaccins, c'est bien de prendre un petit protocole homéo pour préparer ça. On prend 5 jours avant et 5 jours après, 3 granules de thuya 9CH le matin, et le soir, 3 granules de silicéa 9CH le soir. Les 5 jours qui précèdent, les 5 jours qui suivent. Et si on doit prendre un antipaludéen. On sait que ça protège bien du paludisme, qui est une maladie terrible. Hein. Ça tue bien davantage que le coronavirus. Hein. Les inconvénients de l'antipaludéen, un petit peu, c'est une action toxique sur le foie. Donc, dans ces cas-là, ce qui est bien, c'est de prendre une petite dose de phosphorus une fois par semaine en 9CH pendant toute la période pendant laquelle on prend ces antipaludéens. Et comme ça, on n'aura pas de soucis. On pourra et se protéger du paludisme et se protéger d'éventuels effets secondaires.
Marie-Claire nous pose une question. Pour les brûlures, par exemple avec le barbecue, comment savoir quel est leur degré de gravité et faut-il consulter ?
Alors, lorsqu'on se prend pour une saucisse et qu'on se grille soi-même, les trois stades, très clairement, c'est quand c'est juste rouge, c'est le premier degré. Quand ça cloque, on n'a pas en langage scientifique, on appelle ça une flictaine. Lorsque ça cloque, c'est le deuxième degré. Et quand on commence à voir que ça a un petit peu, qu'on est un peu abîmé, on le voit pas forcément du premier coup d'ailleurs, hein, parce qu'au départ, on peut ne voir que la cloque. Et c'est 3 jours, 4 jours plus tard, quand la cloque s'affaisse, quand éventuellement ça pèle, qu'on s'aperçoit qu'en dessous, ça a un tout petit peu creusé. Donc ça, c'est le troisième degré. Et c'est sur le troisième degré où parfois, il peut y avoir des cicatrices. Jusqu'au deuxième degré, on a une cicatrisation, c'est invisible. On verra jamais qu'on a été brûlé. Alors, on peut prendre effectivement des médicaments homéopathiques, il y a des choses comme ça, mais surtout, il faut mettre des pansements gras pour permettre, alors désinfecter bien sûr, hein, pour éviter l'infection, surtout si ça...
Mettre sous l'eau froide aussi au tout début, enfin l'eau tiède, oui.
Absolument, absolument. Il y a, pour les petites brûlures, il y a une technique qui est connue dans les écoles, d'hôtellerie et de restauration. Quand parce que c'est des gens qui se brûlent facilement dans les cuisines, les petits apprentis, etc. Et on leur indique, dès qu'on se brûle, on met du poivre moulu, ce qui peut sembler complètement hallucinant. Moi, je l'ai fait une fois, j'ai essayé, ça marche et ça soulage la douleur absolument instantanément. Hein, de mettre, mais c'est juste pour la douleur sur le moment, on met du poivre moulu sur l'endroit brûlé. Hein. Mais après, sinon, effectivement, eau tiède, eau froide, et puis on surveille, et ensuite les pansements gras pour que ça cicatrise au mieux. Dans les brûlures, il faut faire attention, dès que ça concerne une zone de peau qui est un petit peu étendue, là, il y a un risque quand même, à la fois un risque infectieux, un risque de déshydratation, il y a beaucoup de risques, et dans ces cas-là, il faut consulter.
Très bien. Merci à vous, docteur, d'avoir répondu présent.
C'était un plaisir.
Au revoir.